Les ministres iraniens et ukrainiens des Affaires étrangères ont insisté sur les efforts diplomatiques pour mettre fin à la guerre. Téhéran et Bakou renforcent leurs liens sécuritaires. Et nouvelle frappe israélienne contre la bande de Gaza au lendemain de la visite du président Joe Biden en Cisjordanie occupée. C'étaient les principaux titres de l'actualité. Voici le journal. Téhéran a rejeté les allégations avancées par le conseiller américain à la sécurité nationale selon lesquelles l'Iran envisageait de fournir à la Russie plusieurs drones de combat pour qu'elle les utilise dans la guerre contre l'Ukraine. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a fait ses déclarations lors d'une conversation téléphonique avec son homologue ukrainien. Il a déclaré que de telles allégations visent à assurer certains objectifs politiques des États-Unis. La position claire et de principe de la République islamique d'Iran, qui s'oppose à la guerre et soutient la cessation de la guerre, n'est pas basée sur un double standard, comme la double approche ambiguë de certains pays occidentaux, a souligné Hossein Amir Abdollahian. La République islamique d'Iran poursuit ses efforts pour mettre fin à la guerre et résoudre la crise en Ukraine, a ajouté le chef de la diplomatie iranienne. L'Iran a répété à plusieurs reprises que la guerre n'était pas le moyen de sortir de la crise, déclenchée par les provocations de l'OTAN contre la Russie. L'Iran est prêt à développer et à étendre de manière globale ses relations avec Kiev, y compris dans les domaines économiques et agricoles, a déclaré le ministre iranien des Affaires étrangères. Le secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale iranienne a considéré le soutien continu à la paix et à la stabilité dans la région comme l'une des principales stratégies de la République islamique d'Iran. La sécurité importée ne fournit pas les intérêts stables des pays de la région, a-t-il souligné. Selon l'IRNA, Ali Shamkhani, qui s'est rendu en République d'Azerbaïdjan pour une visite officielle d'une journée, a rencontré Ramil Ouzoubov, secrétaire à la sécurité nationale de la République d'Azerbaïdjan, vendredi après-midi. Lors de cette réunion, l'amiral Shamkhani, se référant aux affinités historiques, religieuses et culturelles entre les deux pays, a qualifié l'expansion et l'approfondissement des relations avec la République d'Azerbaïdjan de partie importante de la politique étrangère de la République islamique d'Iran. Nous étions une seule nation dans le passé, mais nous avons été séparés pour diverses raisons. Mais les racines communes demeurent, a déclaré Ali Shamkhani. Les vice-ministres des Affaires étrangères de la Chine et de l'Iran ont discuté à propos des négociations nucléaires. Un diplomate de l'ambassade de Chine à Téhéran a écrit sur son compte Twitter « Le vice-ministre chinois des Affaires étrangères, Ma Zhaoguzhou, a eu un échange approfondi sur les questions nucléaires de l'Iran lors d'une conversation téléphonique avec Ali Bareilly Kani, l'adjoint politique du ministère iranien des Affaires étrangères. » Ali Bareilly, chef de la délégation iranienne dans les négociations de Vienne, mène souvent des échanges avec la Chine et la Russie dans le cadre des pourparlers de Vienne. En ce qui concerne les pourparlers nucléaires, le ministre iranien des Affaires étrangères a souligné que l'Iran est déterminé à parvenir à un bon accord solide et stable, contrairement à certaines affirmations médiatiques de la partie américaine. Nous n'avons pas d'exigences extravagantes et nous n'avons pas d'exigences supplémentaires comme le prétendent les États-Unis, a-t-il souligné. Le mouvement de résistance palestinien, le Hamas, a réagi aux dernières frappes aériennes d'Israël sur la bande de Gaza, les qualifiant de nouveaux crimes commis contre les Palestiniens. Le porte-parole du Hamas, Hazem Rassem, a déclaré que le bombardement de Gaza et l'intimidation de personnes innocentes font partie des atrocités et du comportement systématique de terrorisme de Tel Aviv. Il a souligné qu'Israël ne sera pas en mesure de briser la volonté et la résistance des Palestiniens malgré tous ces outils terroristes et le soutien complice des États-Unis. Ces tirs interviennent au lendemain de la visite du président américain Joe Biden en Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël, où il a rencontré à Bethléem le président palestinien Mahmoud Abbas dans le cadre de sa tournée au Moyen-Orient, qu'il a également conduit en Palestine occupée. Plusieurs villes ukrainiennes signalent de lourdes attaques russes, les dernières d'une série de frappes par Moscou ces dernières semaines à l'aide de missiles à longue portée. Kiev affirme qu'au moins 34 civils ont été tués au cours des trois derniers jours. Des missiles russes ont frappé les villes centrales du pays tout en déclenchant des séries d'avertissements dans la capitale Kiev. La Russie a nié à plusieurs reprises avoir pris pour cible des civils. Pendant ce temps, Kiev affirme que les contre-attaques contre les centres logistiques et militaires russes ces dernières semaines ont réduit le potentiel offensif des forces russes. L'Ukraine affirme que les armes occidentales, y compris les systèmes de roquettes HIMARS fabriqués aux États-Unis, ont un impact sur le champ de bataille et pourraient changer la dynamique de la guerre. Dans un entretien accordé à la radio publique cité par Reuters, le premier ministre hongrois est longuement revenu sur les conséquences des sanctions mises en œuvre par l'Union européenne, les jugeant inefficaces vis-à-vis de Moscou, mais surtout lourdes de conséquences pour les pays membres de l'Union européenne. Au départ, je pensais que nous nous étions seulement tiré une balle dans le pied, mais maintenant, il est clair que l'économie européenne s'est tiré une balle dans les poumons et qu'elle est à bout de souffle, a déclaré Viktor Orban. Pour le chef du gouvernement hongrois, l'Union européenne s'est trompée en considérant que les mesures prises après le lancement de l'opération militaire russe en Ukraine allait affaiblir la Russie et accélérer la fin du conflit. Le moment de vérité doit venir de Bruxelles lorsque les dirigeants admettront qu'ils ont fait une erreur de calcul, que la politique de sanctions était fondée sur des hypothèses erronées et qu'elle doit être modifiée. Les sanctions n'aident pas l'Ukraine, en revanche, elles sont mauvaises pour l'économie européenne. Et si ça continue comme ça, elles vont tuer l'économie européenne, a-t-il encore déclaré. Le haut responsable iranien des droits de l'homme a fustigé le rapporteur spécial de l'Organisation des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme en Iran, pour avoir salué la condamnation d'un citoyen iranien par un tribunal suédois. Dans un communiqué vendredi, Kazem Gharibabadi, chef adjoint de la justice iranienne et secrétaire du Haut Conseil iranien des droits de l'homme, a qualifié les propos de Javid Rahman d'extrêmement décevants. Il est extrêmement décevant que Javid Rahman ait choisi de soutenir publiquement la détention arbitraire et le simulacre de procès d'un citoyen iranien au lieu d'appeler les autorités suédoises et de les tenir responsables des violations flagrantes des droits de l'homme de la victime, a-t-il déclaré. Dans sa déclaration plus tôt vendredi, Javid Rahman a salué la condamnation de Hamid Nouri, un ancien responsable de la justice iranienne qui a été condamné à perpétuité par un tribunal suédois jeudi pour avoir participé à l'exécution de dissidents emprisonnés à la fin des années 1980. Hamid Nouri, qui a été arrêté à son arrivée à l'aéroport de Stockholm en novembre 2019, est détenu à l'isolement depuis plus de 2 ans. Il a rejeté avec véhémence les allégations portées contre lui à la demande du groupe terroriste de l'organisation des Moudjahidine Khalq, OMK. Gharib Abadi a déclaré que le communiqué de presse de Javid Rahman, à l'appui d'une grave injustice, était une autre indication de sa tendance inhérente à utiliser son mandat parrainé par le Royaume-Uni pour plaire aux ennemis de l'Iran, au prix du sacrifice des principes fondamentaux des droits de l'homme. Dans une lettre adressée au haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme la semaine dernière, Gharib Abadi avait exprimé sa profonde inquiétude face aux violations flagrantes des droits de l'homme commises par les autorités suédoises contre Hamid Nouri. Je vous demande de prendre toutes les mesures nécessaires pour tenir la Suède responsable, empêcher de nouvelles violations et obtenir la libération de Nouri, a-t-il déclaré dans la lettre adressée à Michel Bachelet. Jeudi, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanani, a rejeté le verdict du tribunal suédois comme inacceptable, qui, selon lui, était fondé sur les allégations sans fondement du groupe terroriste OMK. Kanani a fermement condamné le verdict politisé basé sur les allégations sans fondement et fabriqué de toutes pièces contre l'Iran, son système judiciaire et la personne de Hamid Nouri. Se référant aux atrocités des terroristes de l'OMK contre les peuples d'Iran et d'Irak, le porte-parole a exprimé son profond regret que la Suède, malgré une bonne relation historique avec la République islamique d'Iran, ait succombé aux objectifs malveillants de la propagande de l'organisation OMK, rendant son système judiciaire servant les objectifs criminels de ce groupe en s'engageant pratiquement dans le blanchiment du terrorisme. En protestant avec véhémence contre la décision du tribunal qui n'a aucune compétence ni base légale, la République islamique d'Iran tient la Suède responsable des dommages causés aux relations bilatérales à cause de ce procès, a déclaré Nasser Kanani, porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères.